Bonjour chers auditeurs, nous retrouvons Catherine Marie-Calais qui était venue nous parler du festival Musique Baroque en Minervois, à Cosne-Minervois. Bonjour Catherine.
Bonjour Valérie.
Alors comme Catherine est une grande bavarde et une passionnée de voyage, on va rentrer directement dans le vif du sujet et tu vas donc nous parler de tes coups de cœur touristiques. Alors on va commencer par le premier, le coup de cœur touristique dans le monde hormis la France.
Alors, mon coup de cœur pour le monde, bon, j'avais déjà fait un coup de cœur sur le sultanat d'Oman, et là, je vais partir sur le Népal.
Oula.
J'ai eu l'occasion de me rendre au Népal donc, en novembre 2012, et j'ai été extrêmement séduite par ce pays, tant par ses paysages, parce que entre la chaîne himalayenne au nord et l'Inde au sud, où on est dans des régions subtropicales, on a tous les types de paysages, tous les types de même de culture, hein, puisque c'est un pays multiculturel avec le croisement de toutes les religions. Et ce qui m'a... alors, je ne tomberai pas dans le cliché de dire c'est un pays pauvre mais accueillant, etc. Bon, ça, c'est, on le sait, mais c'est aussi un des pays les plus pauvres du monde quand même. Hein. Mais par contre, ce qui m'a vraiment frappé, et j'aime en parler, c'est le croisement des religions, et en particulier des religions bouddhistes et hindouistes, puisque la majorité des Népalais sont bouddhistes ou hindouistes, bouddhistes plutôt en montagne, plutôt hindouistes dans les plaines.
D'accord.
Et il s'est développé une forme de syncrétisme qui fait que aussi bien les hindous que les bouddhistes participent au rite des uns et des autres.
Ah, c'est drôle, ça, effectivement.
Alors,
c'est
par exemple, mon guide donc de montagne était népalais hindou, puisqu'il venait des contreforts là, de l'Himalaya. Et chaque fois qu'on rentrait dans un temple bouddhiste, il était... Il respectait tous les rites, il se prosternait devant les prêtres bouddhistes, etc. Et je lui dis, mais tu es bouddhiste ou tu es hindouiste? Il m'a dit, non, je suis hindouiste, mais je respecte beaucoup le bouddhisme. et vice-versa. Et
d'accord.
J'ai trouvé que c'était...
Oui, c'est une belle leçon de vie.
Voilà, c'était à noter comme une caractéristique quand même assez exceptionnelle dans le monde d'aujourd'hui.
Tout à fait. C'était vraiment une chose importante à dire. Et qu'est-ce que... Donc, vous êtes resté combien de temps en automne l'année dernière?
Une quinzaine de jours.
D'accord. Et là, vous repartez combien de temps?
Et là, je repars... Alors, pas au Népal, mais je repars sur le Ladakh, donc toujours la chaîne himalayenne, mais côté ouest, donc nord de l'Inde.
Mais pour faire ce genre de voyage, il faut être plutôt sportif, plutôt...
Ah oui, il faut être un minimum sportif, puisque ce sont quand même des randonnées un peu exigeantes, avec des franchissements de cols à très haute altitude, donc à plus de entre 5 et 6 000 mètres, donc effectivement, il faut avoir un peu la forme. Il n'y a pas non plus besoin d'être un athlète de haut niveau, mais il faut avoir une bonne forme. Oui,
Oui, donc je pense que ça demande quand même un entraînement avant. On ne peut pas conseiller aux auditeurs qui nous écoutent de partir comme ça, la fleur au fusil.
C'est quand même
quelque chose qui se prépare. Mais effectivement, si vous y retournez comme ça dans si peu de temps, même si c'est sur une autre partie, effectivement, c'est que ça doit avoir un atout fort, voilà, pour vous attirer de nouveau dans ces contrées mystérieuses. Coup de cœur touristique en France, hormis le Languedoc-Roussillon.
Alors, mon coup de cœur, ça sera la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Donc, ça se trouve dans le Doubs.
C'était bien de le dire.
Doubs, pour vous situer, parce que je suis...
Oui, c'est bien.
Tout le monde
bien.
Ne se situe pas. Besançon.
D'accord.
Ça vous situe un peu.
Voilà. Oui, c'est vrai que moi, j'aurais vu ça encore plus haut, mais d'accord, Besançon.
Alors, vous voyez Besançon, à peu près, où ça se situe. Donc, la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Était une ancienne manufacture de sel. Alors vous allez me dire, du sel à Arc-et-Senans.
Eh bien
oui, parce que c'était des régions où il y avait beaucoup de sel-gemme. Donc c'était des carrières de sel-gemme. Alors ce qui est notable dans la saline, ce n'est pas tellement le fait que ce soit une saline. Elle est classée quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO.
D'accord.
C'est un ensemble monumental d'une ancienne usine qui avait été créé donc par un architecte et urbaniste qui s'appelait Claude-Nicolas Ledoux, et qui avait, au travers de cet ensemble, voulu créer la ville idéale. Donc c'était ça s'inscrit dans la lignée des utopistes. Et vous aviez sur place, donc, dans un ensemble très ordonné architecturalement, donc l'usine, les entrepôts, les magasins, les habitations, les écoles, les épiceries, etc. Et donc les gens qui travaillaient sur place ne sortaient jamais.
Ah, ils vivaient en vase clos.
Ils vivaient en vase clos et ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Donc à la limite, ils étaient peut-être plus heureux que les ouvriers qui vivaient dans d'autres circonstances. Mais ils étaient voilà, dans ce monde clos. Et Claude-Nicolas Ledoux a été le précurseur de l'utopisme hein, et peut-être aujourd'hui de notre économie sociale et solidaire au travers des recherches justement de nouvelles relations à la fois à travers l'urbanisme et à la fois dans les relations humaines et les relations professionnelles.
Et donc là, qu'est-ce qu'on visite quand on...
Eh bien, on visite tous les... Parce que tout est mis en scène, donc c'est un ensemble. Vous imaginez, tout est... En fait, c'est un terrain rond.
D'accord.
Et tous les bâtiments sont disposés comme ça, dans ce rond, dans une forme très ordonnée. Et vous visitez tous les bâtiments et vous essayez de comprendre l'ordonnancement des choses, pourquoi ça a été fait comme ça, et quelle était la volonté de son fondateur quand il a fait cet urbanisme-là.
Et ça a duré combien de temps
Alors très peu, parce qu'en D'accord. fait la Saline, à l'époque où elle a été mise en place, enfin à l'époque où elle a ouvert, elle a été très vite concurrencée par le sel de mer, justement. Mmh. Et donc toutes les carrières de sel-gemme en France, petit à petit, se sont éteintes.
D'accord. Bon, mais voilà quelque chose d'original. Coup de cœur touristique en Languedoc-Roussillon, hormis l'Aude.
Alors là, on va partir sur quelque chose de complètement différent. Donc c'est la Via Ferrata de Saint-Paul-de-Fenouillède, donc dans la vallée du Fenouillède, donc c'est les Pyrénées-Orientales.
D'accord.
Donc c'est une... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Via Ferrata, c'est un principe de progression donc en parois verticales, semi-verticales, mm-hmm. à l'aide d'échelles, de petites plateformes et en s'assurant sur des câbles au moyen d'un équipement qui est proche de l'équipement utilisé par les grimpeurs et les alpinistes. Donc il s'appelle des longes, c'est-à-dire un système de sangles reliés par des mousquetons.
C'est un peu le même style qu'un parc accrobranche.
Voilà,
en fait.
Exactement.
Le parc de l'aventure, c'est le même système.
À peu près le même système. Sachant quand même, alors, on parle de ça, mais on ne doit pas s'aventurer dans une Via Ferrata, quelle qu'elle soit, sans matériel adéquat, c'est-à-dire des longes, mais qui permettent d'amortir les chocs, un casque, des chaussures adaptées, etc. Ne pas s'engager n'importe comment sur ces Via Ferrata. Ça peut paraître facile comme ça, mais on peut se retrouver vite en difficulté, donc il ne faut pas s'y engager. D'ailleurs, il y a généralement des panneaux qui vous avertissent sur tous les dangers liés à ce type de pratique. Alors une fois qu'on a
son petit équipement,
ce moment sécurité, donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet d'approcher le vide, mm-hmm. d'approcher l'apprentissage et le fait d'apprivoiser l'apprivoisement.
Oui.
Voilà, l'apprivoisement.
Oui. On va dire
vide,
ça.
sans avoir de difficultés techniques extrêmes, hein, puisqu'on progresse sur des marches d'escalier en fin de compte. Hein. Mais c'est extrêmement intéressant et en plus c'est très très beau parce que dès qu'on arrive en haut de la Via Ferrata, on a une vue extraordinaire sur toute la vallée du Fenouillède, vraiment avec le château de Quiribus en face. C'est extraordinaire.
Ah oui,
vraiment.
On y est presque là.
Oui, oui, oui.
Mais alors là, est-ce que c'est accessible à tout niveau?
Il y a deux parcours. Il y a un parcours enfant, alors là, qui est vraiment accessible à tout le monde, qui se
D'accord.
fait en 20 minutes. Mm-hmm. Et puis un parcours donc normal, adulte, qui lui est un petit peu exigeant tout au début, mais après c'est très facile. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en crête et vous progressez en crête. Donc c'est pas. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ne partez pas seul, partez avec le matériel et accompagné.
D'accord, oui, quand même. Voilà, il faut quand même quelqu'un qui guide. Et ça se passe comment dans ces cas-là? Il y a un bureau de renseignement sur place? On peut
oui,
louer
du
matériel?
Non, ne loue pas le matériel de Via Ferrata, puisque c'est du matériel de sécurité, donc ça ne se loue pas comme ça. Donc là, vous devez vous rapprocher d'un club ou d'un professionnel qui vous équipera.
Parfait. Est-ce qu'on a des Via Ferrata dans l'Aude?
Alors non, on n'a pas de Via Ferrata, enfin pas de ce niveau-là, disons qu'il y ait une vocation un peu touristique quand même.
D'accord. Hein, voilà. Oui, j'en entends souvent parler de la Via Ferrata des PO, mais effectivement j'en avais pas entendu parler dans l'Aude. Bon ben ça viendra peut-être. Coup de cœur touristique dans l'Aude, hormis le pays carcassonnais justement.
Alors mon coup de cœur sera pour l'Olibo.
Oui.
L'Olibo, donc tout le monde connaît l'Olibo, donc qui est situé à Bise-Minervois, parce que c'est une coopérative de producteurs d'huile d'olive, c'est aussi un moulin à huile, Et donc, des producteurs bon, connaissent bien l'olipo parce qu'ils peuvent aller faire presser leurs olives pour obtenir leur huile. Mais depuis peu, l'olipo a mis en place un spectacle son et lumière qui dure une vingtaine de minutes et qui s'appelle l'Odyssée de l'olivier et qui présente sur un écran géant un véritable voyage pour expliquer toute la production de l'olive depuis l'Antiquité à nos jours. Donc c'est très intéressant.
C'est côté historique.
Et, voilà. Et c'est en plus historique mais ludique. Hein. Ça peut être très bien vu par des enfants, par tout type de clientèle. Ça a une vocation touristique, mais ça a aussi une vocation pour les gens de la région qui voudraient avoir un peu plus de renseignements. C'est complété par un espace muséographique multimédia qui est aménagé dans l'ancien moulin. Et puis aussi, on peut pratiquer donc, la route de l'olivier qui part de Latte jusqu'à la frontière espagnole et qui peut se pratiquer D'accord. avec un guide accompagnateur qui va vous expliquer toute la production de l'olivier et toute l'histoire de l'olivier dans la région Languedoc-Roussillon.
Parfait. Oui, j'avais entendu dire qu'ils avaient créé de nouveaux produits, donc c'est bien, c'est une structure qui progresse.
Voilà. Vous avez aussi une boutique, bien sûr, hein, de producteurs, où vous allez retrouver tout type de produits, essentiellement, bien sûr, à base d'huile d'olive. Alors, vous avez aussi, à la fin des visites, des dégustations d'huile. Alors, c'est peu connu, hein, parce qu'on connaît surtout la dégustation de vin.
Oui, tout à fait.
Et bien, on peut aussi déguster l'huile. Et apprécier ces différents parfums, ces différents senteurs, et c'est vraiment très très intéressant.
Alors c'est vrai qu'au départ, ça fait pas très envie. On avait reçu également Fabienne Fontaise du Moulin à Huile de Flours, et justement on avait parlé de cette dégustation. Et bon, c'est vrai qu'au départ, on se dit, oh là là, déguster de l'huile, et c'est vraiment très intéressant à faire. Bon, il faut passer la première appréhension, où on se dit, une cuillère à café d'huile, bon. Et en fait, ça se fait très très bien, et ça permet de voir toute la différence des huiles d'olive, justement. Mmh. Et pour finir, Catherine, donc, votre coup de cœur touristique en pays carcassonnais.
Alors, en pays carcassonnais, l'année dernière, j'avais parlé du jazz à Roquefer. Alors, pour rester un peu dans la même thématique, et même si on en a déjà parlé ensemble il n'y a pas très longtemps, je voudrais réinsister sur le concert baroque en Minervois, donc, qui se déroule à Cône-Minervois, parce que, quand même, c'est à la fois une manifestation exceptionnelle en elle-même, et puis un événement pour le territoire qu'il faut souligner et puis encourager. Parce qu'il faut souligner aussi que c'est à l'initiative de bénévoles. C'est une manifestation quand même de qualité, donc ça mérite d'être encouragé.
Et puis il y a très longtemps un festival de musique baroque à Lormes-Minervois, si je me rappelle bien. Je crois que ça doit faire une dizaine d'années, bon, qui s'est arrêté, parce que comme toute association avec des bénévoles, ben, effectivement, il arrive que les gens choisissent d'autres voies. Et c'est dommage parce que c'est un festival qui recueillait beaucoup de monde. Ça manquait sur notre territoire, donc vraiment, c'est une bonne initiative. On rappelle les trois soirs, l'heure, comment ça se passe rapidement?
Alors rapidement, donc c'est trois soirées, trois concerts différents, le jeudi 22 août, le vendredi 23 août et le vendredi 24 août. Un thème à chaque fois, donc le jeudi, le 16e siècle, musique renaissance a cappella. Le vendredi, 17e siècle, musique italienne qui mêle voix et instruments, et le samedi 24 août, donc voix et instruments également, autour principalement de Handel. Voilà, donc le concert est offert par l'ensemble Opalescence, qui est un ensemble vocal donc, et orchestral, dirigé par Saskia Salambier, qui est une artiste au Savoyarde, qui s'est spécialisée dans la musique baroque.
Voilà, et puis donc les personnes peuvent acheter leurs billets, soit à l'office de tourisme du Haut-Minervois, ou sur le net, à travers l'agence sudfrance.fr.
Tout à fait.
Un téléphone.
Alors, pour l'office de tourisme du Haut-Minervois, 04 68 76 34 74. Et pour le téléphone de l'agence sudfrance.fr, si vous ne réservez pas en ligne, 04 68 11 40 76.
Merci beaucoup Catherine. À une prochaine fois. Chers auditeurs, eh bien, je vais vous souhaiter de très très bonnes vacances, reposez-vous bien, oubliez tous vos soucis, et puis c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai à la rentrée en septembre. À très bientôt, au revoir.
Au revoir.